France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission de ce jour, la dernière de la saison, sera consacrée à un sujet qui pourrait surprendre, la bande dessinée. Mais enfin, dirait l'autre. Et pourtant, nous sommes bien dans les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, sur France Culture. La bande dessinée donc, ce 9e art, art populaire, art tout court, et son dialogue fécond avec la franc-maçonnerie. Car notre sujet, c'est bien celui d'un compagnonnage, discret mais fécond, entre deux mondes que l'on ne rapproche pas si souvent, la bande dessinée et la franc-maçonnerie. Car longtemps, reléguée aux marges des intrigues ou à l'arrière-plan des cases, la franc-maçonnerie s'est peu à peu invitée au cœur même de la narration graphique. À travers des personnages aussi divers que Mickey, Tintin, Corto Maltese, les auteurs ont esquissé, suggéré, parfois affirmé, une présence maçonnique dans leurs univers. Notre invité de ce jour, Didier Convard, connaît bien ses chemins narratifs et symboliques. Scénariste de bande dessinée, il est notamment le père de la saga du Triangle Secret ou récemment de l'épopée de la franc-maçonnerie dont le 12e et dernier tome paraît chez Glénat. Une série ambitieuse qui retrace les grandes étapes de l'histoire maçonnique à travers les siècles. Comment représenter le secret sans le trahir? Comment dessiner l'invisible? Et surtout, que nous dit cette rencontre de notre besoin de récit, de symboles, de fraternité et de lumière? Pour nous en parler, je suis très heureux de recevoir le scénariste Didier Convard. Cher Didier, bonjour.
Bonjour Clément.
Alors Didier Convard, je voudrais débuter notre échange en évoquant cet article que vous publiez dans Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France, dans ce nouveau numéro consacré à la culture et maçonnerie. Article où vous évoquez cette relation étonnante entre franc-maçonnerie et bande dessinée. D'ailleurs, une relation longtemps discrète. Pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle longtemps été absente dans la bande dessinée?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'auteur de bande dessinée maçon. Il y avait des auteurs maçons, mais la bande dessinée était se cantonnait à cette époque dans une histoire pour la jeunesse. La bande dessinée était soumise à la censure pour les livres de jeunesse, si bien que les auteurs faisaient des histoires essentiellement des aventures romanesques, c'était des cow-boys, des indiens, des détectives privés, et puis il y avait des juges avec des grosses lunettes qui regardaient si tout était bien convenable et propre pour des enfants. Et la bande dessinée a évolué à partir des années 70, quand la censure d'ailleurs a disparu, et que sont intervenus sur le marché de l'édition des gens comme Rezer, Cabu, Giraud, un peu plus tard Bilal, Tardy. Et là, la bande dessinée a prouvé qu'elle était un mode d'expression comme un autre, comme le cinéma, comme le théâtre, comme la littérature, et permettait justement à ceux qui se cachaient pour définir ce qu'ils étaient, qui amenaient un petit peu d'humanisme, un petit peu de fraternité, un petit peu de tolérance dans leurs histoires, là, on peut le faire en toute lumière. Et c'est pour ça que Corto Maltese est apparu sous les traits du dessinateur Hugo Pratt.
Mais la franc-maçonnerie restait sous-jacente.
Oui, il y a qu'Hugo Pratt qui a montré que son personnage n'était pas franc-maçon, il était franc-marin. Il appelait Corto le franc-marin. Sinon, les auteurs se cachaient un petit peu. Il a fallu attendre l'année 2000, avec le Triangle Secret, dont votre serviteur a écrit le scénario, pour ouvrir grandement la porte et mettre en scène vraiment des héros francs-maçons dans la Grande Loge de France et qui vivaient une quête particulière aux francs-maçons.
D'ailleurs, donc, on parle aujourd'hui de franc-maçonnerie, de bande dessinée. Pensez-vous que la structure même d'une bande dessinée, avec ses cases, ses ellipses, ses silences entre les bulles, reproduit peut-être d'une certaine façon une sorte de démarche initiatique faite, elle aussi, de fragments et surtout de symboles?
En fait, il y a une ressemblance, certainement, parce que la bande dessinée est très codifiée. Quand vous rentrez dans un temple, vous avez devant vous des symboles qui se présentent. Mais entre ces symboles, il y a l'espace que vous allez mettre, vous, en réfléchissant sur ces symboles, qui se conjuguent. Ben, en bande dessinée, vous avez une page, elle est composée de cases, et entre chaque case, il y a ce qu'on appelle le hiatus, c'est cette petite bande blanche, et le lecteur travaille autant que l'auteur. C'est-à-dire qu'entre les deux cases, c'est le lecteur qui invente le mouvement, ou qui invente l'action. La bande dessinée est faite d'ellipses. Et quand on fait un travail en maçonnerie, notre quête, elle est faite d'ellipses. Elle est faite de moments où on doit réfléchir, on doit inventer les choses en fonction de sa personnalité.
Alors, dans votre article, vous convoquez deux totems de la bande dessinée, Mickey et Tintin. Peut-être que vous allez nous révéler le secret. Était-il franc-maçon? Mais surtout, que vous inspire le fait que des héros comme Mickey ou Tintin soient justement perçus comme porteurs d'un imaginaire maçonnique? Alors, peut-être d'abord Mickey, ça peut paraître étonnant.
Alors, Mickey, il se présente avec ses gants blancs, avec sa petite culotte rouge et ses deux boutons. Alors, beaucoup de gens ont dit, parce que Mickey a des gants blancs, il est franc-maçon. En fait, Walt Disney, le créateur de Mickey...
Il
appartenait à une confrérie qui s'appelait la confrérie de Molay et qui était une confrérie cousine de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, il représente à un moment donné Mickey dans une grange, derrière un pupitre, qui peut être un pupitre de président de loge.
Vénérable maître,
disons-le. Vénérable maître, voilà. Et alors, il ouvre les travaux, et il y a tous les personnages de Walt Disney qui sont là, qui l'écoutent, et il se tient vraiment comme un vénérable maître dans une loge. 50 ans plus tard, dans un journal de Mickey, les rédacteurs qui créent une énigme que les lecteurs doivent découvrir, et cette énigme, il la crée en utilisant l'alphabet maçonnique, qu'on n'utilise plus beaucoup nous-mêmes. Et le résultat de l'énigme, c'est Oncle Picsou se tait parce que le silence est d'or. On ne peut pas mieux rêver.
On va relire Mickey différemment. Mais alors, on évoquait Mickey, mais donc Tintin aussi était franc-maçon?
Alors, Tintin, je pense que Hergé, le créateur de Tintin, ignorait que son personnage était franc-maçon. Il a lancé son personnage dans des quêtes extraordinaires, surtout les deux quêtes, la quête du secret de la licorne et du trésor de Rackham le Rouge. Mais Hergé s'intéressait énormément à l'alchimie, à l'ésotérisme, au symbolisme. Donc il est naturel qu'on retrouve dans l'œuvre d'Hergé tout un tas de symboles, d'éléments que les maçons ou les sociétés initiatiques utilisent, dont ils sont friands. Par contre, dans son entourage, il y avait un personnage assez mystérieux qui s'appelait Melk Beke, qui a été rédacteur en chef du journal Tintin et qui était un scénariste, un peintre, un homme qui faisait des pièces de théâtre aussi et qui a inspiré Hergé pour les scénarios de Secret de la licorne et du trésor de Rackham le Rouge.
Et alors donc des scénarios qui seraient d'inspiration...
Alors c'est un scénario qui est complètement maçonnique. Tintin se lance à la recherche d'un trésor avec le capitaine Haddock et il ne trouvera pas le trésor à l'endroit où il y aurait la longitude et la latitude. Il devrait trouver le trésor là. Il ne le trouve pas. Donc il revient au château de Moulinsart, qui est le lieu où ils habitent. En fait, Tintin et le capitaine Haddock vont faire le tour de la Terre pour trouver le trésor dans le sous-sol du château. Le trésor est souvent à nos pieds alors qu'on le recherche beaucoup plus loin.
Alors, vous évoquez donc les scénarios de Melk Beke et d'Hergé, mais il y a aussi peut-être certaines valeurs qu'on retrouve chez Tintin très rapidement.
Oui, on retrouve la fidélité, on retrouve la tolérance. La tolérance, il tolère un capitaine Haddock qui est un alcoolique et qui lance des bordées de jurons. L'amitié et la fidélité. Et c'est un homme de valeur.
Il y a un personnage clé avec Tintin au Tibet et Chang.
Alors là, il y a une histoire magnifique, c'est que Hergé était l'ami d'un jeune Chinois qui s'appelait Chang. Il lui a offert la plus belle histoire qui soit, c'est-à-dire que Chang croit perdu Chang dans un accident d'avion et Tintin va aller à sa recherche et va le retrouver dans les bras du Yeti.
Alors, on parle de Mickey, on parle de Tintin. Dans cette très belle article, vous évoquez aussi Corto Maltese, le héros de Hugo Pratt, le franc-marin que vous évoquiez aussi tout à l'heure, de la fable de Venise.
Corto Maltese est un personnage hors du commun en bande dessinée. C'est un personnage d'ailleurs qui apparaît sous les traits d'Hugo Pratt, qui était franc-maçon. Maintenant on peut le dire puisqu'il a ça a été avoué, qui a été initié à Venise et qui après a travaillé à Nice. Corto Maltese, c'est le héros du silence. Bien qu'il parle beaucoup, mais je trouve que Hugo Pratt est capable, avec ce dessin jeté, ces grands aplats noirs, ces mouettes qui passent dans des ciels vides, crée le silence et crée le temps. Avec, dans les histoires de Corto Maltese, il y a le temps qui passe. C'est vraiment superbe.
Et puis, il y a un style particulier, vous le mentionnez, il y a un code.
Alors, ce qui est assez intéressant dans le dessin d'Hugo Pratt, c'est qu'il codifie tous ses dessins. Même quand Corto Maltese court, nous, on va essayer de faire en sorte qu'il y a du mouvement. Donc, Corto Maltese est figé dans son mouvement. Tout est figé, comme s'il prenait des photographies, qu'il figeait, qu'il les mettait les unes à côté des autres. En réalité, chaque image n'est pas merveilleuse en soi. Elle est intéressante par l'information qu'elle délivre. Ce qui est intéressant et ce qui est beau à voir, c'est la page dans sa plénitude. Et chaque image, rajoutée à une autre image, devient une véritable toile.
Alors, je l'évoquais, vous êtes vous-même un auteur de bande dessinée à succès, à très grand succès, avec notamment la saga du Triangle Secret, publiée chez Glénat, je crois, 2 millions d'exemplaires à ce jour. Une série qui introduit des thèmes ésotériques et maçonniques de manière explicite, avec des personnages francs-maçons, et une intrigue autour de l'héritage caché du Christ. Cette série a eu un grand succès et a contribué à éveiller la curiosité sur la franc-maçonnerie auprès d'un très large public. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire sur ce sujet à l'époque ?
En réalité, dans toutes les histoires que j'avais écrites jusqu'à présent, que ça soit la série Neige ou la série Les Héritiers du Soleil, je mettais un petit peu de maçonnerie, mais c'était en sous-titre, on n'était pas obligé de le voir. Je me suis toujours intéressé à l'humain dans la société, à ses valeurs et à cet art. Et en discutant avec mon éditeur Jacques Glénat, qui est un ami de très longue date, je lui avais expliqué ce que j'étais en train d'écrire. J'écrivais un roman qui s'appelle Triangle Secret. Je lui ai donné à lire et c'est lui qui m'a proposé d'en faire l'adaptation en bande dessinée.
Une année clé aussi, autour de l'année 2000.
Alors, il voulait à tout prix le publier en 2000 pour que ça soit l'héritage que nous laissaient ces 2000 ans judéo-maçonniques et qu'on allait ouvrir sur un autre millénaire. Donc j'ai tout fait pour que ça sorte en 2000. Bien sûr, l'histoire peut être assez surprenante et assez troublante. En réalité, elle est aussi inspirée de légendes et de mythes concernant Jésus et son frère Thomas, qui aurait été son frère jumeau, puisqu'en grec c'était Didyme, et Didyme veut dire jumeau, donc le Christ aurait eu un frère jumeau. Mais ça ne serait pas étonnant, on retrouve par exemple dans les Templiers, l'écu des Templiers, ce sont deux Templiers sur un seul cheval, on les appelle les jumeaux. En franc-maçonnerie, quand vous êtes initié avec un autre frère, vous êtes des jumeaux. Donc la jumélité apparaît dans beaucoup de mythes au sujet du Christ.
Lisez le Triangle Secret et vous découvrirez cette gémellité étonnante du Christ. Vous évoquez même que dans votre article que certains lecteurs, après avoir découvert donc cette bande dessinée, cette saga du Triangle Secret, ont demandé à être initiés. Est-ce que c'était une surprise pour vous ? Qu'est-ce que cela dit peut-être de la puissance d'évocation de la bande dessinée ?
Alors là, j'étais vraiment étonné. C'est quand on a fait les premières dédicaces. Enfin, les premières dédicaces, non, parce que il fallait attendre que la bande dessinée soit bien connue. Mais au troisième, quatrième exemplaire, numéro, j'avais des lecteurs et des lectrices qui me disaient oh ben on vient de se faire initier, on a demandé parce qu'on a lu le Triangle Secret et ça nous a donné l'inspiration à acheter d'autres livres et on a fait une recherche. Et encore maintenant, 25 ans après, quand je dédicace, je vois des frères qui sont maîtres maintenant et qui ont été initiés parce qu'ils avaient lu le Triangle Secret. On a créé vraiment des liens magnifiques et fraternels avec ces lecteurs.
Vous dites joliment que l'auteur n'est qu'un passeur, que ce sont les personnages qui séduisent. Mais vous-même, en tant qu'auteur, êtes-vous habité par un engagement, une responsabilité particulière quand vous touchez à un sujet aussi riche que la franc-maçonnerie ?
Oui, tout à fait, parce que je n'aime pas faire des histoires gratuites. J'aime qu'il y ait un message dans les histoires. Je le dis bien modestement, mon message est simple. Comme je vous le dis, je travaille auprès de l'humain. Et donc, mes personnages portent les valeurs qu'on devrait tous porter, c'est-à-dire la fraternité, l'amour, la tolérance, la bienveillance. Et puis, quelque part, dont la vengeance.
La vengeance ?
Oui, parce que j'ai découvert ça en vieillissant. J'avais cette naïveté de croire qu'il fallait tout pardonner. Et je pense qu'en vieillissant, je découvre qu'il ne faut pas tout pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Et surtout en ce moment, dans le monde qui nous entoure, on se rend compte qu'il y a des démons qui gouvernent une partie du monde, et je ne crois pas qu'il faille leur pardonner. C'est trop horrible, ce qu'ils font est trop horrible. La vengeance, c'est pas forcément tuer les gens, c'est leur montrer qu'ils sont mauvais, et les ignorer ou les abandonner en dehors de la société.
Et puis, Didier Convard, vous sortez le 12e et dernier tome d'une série formidable, L'épopée de la franc-maçonnerie. Votre série en bande dessinée tente de retracer l'histoire d'une tradition initiatique pluriséculaire, la franc-maçonnerie. Comment est né ce projet et comment l'idée de l'aborder justement par le dessin s'est-elle imposée à vous et à votre équipe ?
Ça a été une aventure assez difficile parce que je ne voulais absolument pas faire une encyclopédie sur la franc-maçonnerie. Premièrement, je n'en ai pas les capacités, je ne suis pas suffisamment historien pour le faire. Par contre, à la demande de mon éditeur qui me disait « en fait, il y a des bandes dessinées surtout sur l'histoire de l'aviation, sur l'histoire des guerres, surtout. Il n'y a pas sur la franc-maçonnerie. » Et j'étais naturellement en train d'y penser. Donc j'ai réalisé que ça manquait. Ce que je voulais faire, c'est comme je fais d'habitude, c'est-à-dire utiliser la trame romanesque, le roman avec des personnages inventés par moi, pour en faire les vecteurs de ce sujet qu'est la maçonnerie. Donc j'ai pris des événements de la maçonnerie et je les ai intégrés à une histoire romanesque.
Alors, on ne peut pas évoquer tous les tomes de cette belle épopée en 12 tomes, mais peut-être qu'on peut donner quelques thèmes abordés dans la série.
Bah oui, parce que alors on commence par la construction du temple de Salomon, ce qui est assez important, où le maçon va découvrir pourquoi, et le profane va comprendre que la maçonnerie est faite de bâtisseurs. On détruit le temple, faut le reconstruire, c'est extrêmement symbolique. Hein, on ne peut le reconstruire que si les ouvriers sont bons. Ensuite, il y a la construction des cathédrales. On va passer à savoir s'il y a la commune. On va passer à savoir si Napoléon était maçon ou pas, et puis on en arrive à la création des loges féminines.
L'épopée de la franc-maçonnerie en 12 tomes. Nous évoquons la bande dessinée, peut-être qu'en deux mots, vous pourriez nous dire comment cet art si particulier, pour vous, offre un espace peut-être privilégié pour transmettre l'histoire, et j'y reviens, les valeurs de la franc-maçonnerie.
Parce que c'est un art populaire, c'est un art de l'image et du texte, c'est un art qui s'adresse à tous, c'est un art facile d'accès. Donc c'est pour ça qu'on peut faire passer beaucoup de choses.
Merci beaucoup Didier Convard. Je rappelle donc la parution du 12e et dernier tome de l'épopée de la franc-maçonnerie chez Glénat et toujours la série du Triangle Secret chez le même éditeur. Pour conclure, comme à chaque émission, nous évoquons une loge de la Grande Loge de France. Son nom, jamais choisi au hasard, dit quelque chose de l'histoire de ses frères, de l'âme de notre obédience et parfois même d'une certaine vision du monde. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin et souhaitons rendre hommage à la loge Le Soleil, à l'orient de Baie-Mahault en Guadeloupe. Symbole de lumière, de connaissance et de vie, le soleil incarne cette clarté que tout initié cherche à faire croître en lui. Il est aussi, dans notre tradition maçonnique, lié au solstice d'été, celui-là même que nous avons célébré hier, moment où la lumière atteint son apogée, où la nature célèbre son plein rayonnement, comme une image de l'accomplissement intérieur que nous poursuivons dans nos loges. La loge Le Soleil nous rappelle que notre travail est une œuvre de lumière, humble et patiente, tournée vers l'élévation de l'homme et le progrès de l'esprit. À ses frères, nous adressons aujourd'hui notre salut, et à vous tous, nous souhaitons un très bel été, plein de soleil et de lumière. C'était les divers aspects de la pensée contemporaine de la Grande Loge de France, une émission préparée et présentée par Clément Ledoux, à la technique aujourd'hui Noé Chabanne, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Claire Poinsignon. Très bon dimanche à tous, très bel été.